Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Bienvenue à la Conspiration des planches sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'ULB. Alors aujourd'hui, une émission fort chargée avec une équipe au complet, avec Nico, Sophie, Nurten et Elisabeth.
Hello, hello.
Une émission bilingue aussi, puisqu'on va beaucoup parler anglais avec Red Public, Gagarin Way au Méridien, un Shakespeare au parc, du punk avec Sophie au Théâtre 140 et Exiles, Exil, moi ça marche pas, au Théâtre National. Mais avant de commencer, on va parler d'une disparition cette semaine.
C'est Michel Jacquard qui nous a quittés la semaine dernière, il y a quelques jours, pardon. On est encore un peu sous le choc. Michel Jacquard, c'est un homme de l'ombre, mais qui est une œuvre phénoménale. En fait, c'est un vidéaste. Il faut savoir que le théâtre, spectacle vivant, c'est difficile à garder une mémoire. Et ce monsieur a commencé à capter, faire des captations. Moi, quand j'ai commencé le théâtre il y a une dizaine d'années, et que je faisais un mémoire sur le théâtre, les archives du théâtre à l'Albertine, ici, c'était des captations que lui avait faites. C'est le seul qui nous a réunis des œuvres des années 80 en vidéo. Et puis, il a évolué vers un vrai travail de vidéaste et il s'est concentré un peu sur la danse et le mouvement, et essentiellement lié au Festival des Brigitines et aux Brigitines. Donc, il a vraiment fait une œuvre, une magnifique œuvre de vidéaste de danse, ce qui est rare et qui donne de très belles images. Alors, pour les amateurs de YouTube, ils peuvent aller voir ce que ce monsieur a fait. Enfin, c'est un grand homme de l'ombre. Voilà, ces gens qui ont travaillé pour le théâtre en périphérique et qu'on ne met pas assez la lumière. Et je voulais avoir juste une petite pensée pour ce gars qui était très difficile d'aborder, très froid. Et voilà, il a disparu suite d'une longue maladie. Et paix à son âme. Et je me disais justement en arrivant que le spectacle que j'ai vu hier, Exil de Fabrice Murgia, lui aurait plu parce qu'il y a une dimension plastique énorme, d'une beauté visuelle comme ça qu'il aurait eu sûrement plaisir à filmer. Alors Exil de Fabrice Murgia, juste pour montrer Fabrice Murgia, c'est le jeune metteur en scène un peu radical de nos planches pour l'instant, artiste associé au Théâtre National qui circule déjà dans la Cour des Grands, ce qui est rare quand même dans ce milieu. Il nous a présenter Exil, qui est dans un projet qui s'appelle Ville en scène, Cities on Stage, un projet européen initié par le Théâtre National qui réunit 6 théâtres d'Europe avec 6 metteurs en scène, dont Lars Noren, Joël Pomera, Emma Dante. Et c'est ça que je dis, il va dans la Cour des Grands. L'idée, comme thème, ils avaient justement de questionner la multiculturalité des villes européennes, créer une histoire, créer des histoires sur cette action dans la ville. Lui a choisi Exil. Ils ont été évidemment libres de faire ce qu'ils voulait. Lui a choisi Exil et dans Exil, il mélange 4 destins, sûrement en Europe, en tout cas dans les villes d'ici, qui s'entrecroisent. Alors Murgia ne fait pas un théâtre linéaire narratif, il fait ça par flash, il donne des atmosphères, des états du monde. Il faut savoir que son spectacle est en blanc saturé. Alors c'est difficile à comprendre le blanc saturé, c'est toute la scène, on a d'énormes fumigènes, tout est comme ça dans un brouillard. On a l'impression que cette Europe-là qu'on croit est fantomatique comme ça. Et tout va se déplacer. Je crois que je n'ai jamais vu aussi rapidement des déplacements de ma vie. Voilà, il y a un cut, il y a des gens autour d'un repas, il y a un autre cut, il y a une mariée qui apparaît. Il y a un cut à un moment donné où l'exilé, l'Africain qui atterrit en Europe, c'est un des personnages. En 30 secondes, il est sur scène et derrière lui, il y a une autoroute et on le voit tout à fait dans un autre lieu. Et donc, c'est un spectacle hypersensoriel avec une bande-son qui est industrielle, qui, à un moment donné, par exemple, dans un jeu d'images et de lumière qui casse, qui passe à travers ces personnages, ça va aller de plus en plus rapidement. Donc, on a des espèces de vertiges comme ça dans le spectacle. Et on a vraiment des scènes coupées, comme au cinéma. Moi, je dis toujours, c'est un théâtre d'art et d'essai. Donc, il ne faut pas y aller là avec une option de voir une pièce avec tout est lisible, tout est narratif. On voit les 4 personnages, on les définit bien. Donc, c'est vraiment des sensations. Alors, on peut dire, parce que chaque spectateur cherche son film, fil rouge, évidemment. Il y a cet Africain qui est ici, et lui, il sent qu'il s'efface. Alors, c'est une parole comme ça très poétique pour dire, ben voilà, il a dû jeter ses papiers, il a dû jeter son identité, le périple qui l'a emmené ici, et il est en plein effacement, et il recherche une bouée pour un peu respirer dans ce monde. Il y a une autre, quatre personnages, donc il y a une autre jeune fille qui, elle, on a l'impression qu'elle travaille dans les humanitaires, ou on ne sait pas, l'impression qu'elle est dans une espèce de burn-out, et elle, elle reçoit tout le temps des coups de fil pour lui vendre des choses, elle aussi, elle est un peu à la masse, et il y a un gars qui nous dit qu'il est médecin, et qui s'invente un double qui est sur scène et lui sent qu'il va mourir. Mais allez savoir si c'est vrai ou si c'est
donc
faux.
Donc il y a quatre comédiens.
Il y a quatre comédiens.
Parce que son truc à Fabrice Murgès, c'est fort la vidéo.
Il y a la vidéo, par exemple, ce qu'il fait en vidéo, il y a cette scène de repas très feutrée dans ce blanc. Il y a à un moment donné tous ces personnages qui prennent la parole et il y a leurs images qui est en gros plan. Quand ils sont sur une scène de table, la table tourne. Dans leur discours, dans leur dialogue, on les voit en gros plan comme sur un tulle, parce que le devant de la scène est complètement fermé d'un tulle. Il n'y a pas l'habitude qu'on voit au théâtre. Voilà. Ici, il y a un quatrième mur de tulle qui donne tout à fait une atmosphère. Et voilà, donc il y a un moment donné, on peut lâcher, probablement si on n'est pas habitué, si on veut absolument un fil.
Ça dure combien de temps ?
Une heure. C'est vraiment une œuvre radicale, c'est une œuvre plastique. Moi, je me dis que ça aurait pu être dans un musée sans les personnages vivants, mais il aurait pu faire un travail de mannequin. Et on sent, moi, je trouvais que l'exil, d'abord, c'est casse-gueule, hein, parler de l'immigration, des Noirs qui viennent ici échouer, sans papier et tout. Et c'est fait d'une façon très feutrée et très profonde, parce que lui, avec son message d'effacement, on ressent alors toute la dimension de l'immigration. À un moment donné, petit clin d'œil aussi, ils sont face à face avec une personne de l'administration et lui dit comme un leitmotiv, de toute façon, arriver jusqu'ici, ça ne sert plus à rien de résister et on sent qu'on va l'expulser. Et elle répète tout le temps ça. Et ce qui est adorable, ça c'est Murgia, c'est qu'elle a un accent liégeois. Donc il ose mettre aussi ce genre de pratique qui vient de Liège dans cette beauté comme ça. Moi je trouve que c'est une œuvre magnifique.
Voilà, donc une nouvelle étape réussie pour Fabrice Murgia au Théâtre National. Exil, ça se joue jusque quand ?
Alors ça se joue jusque 11 février, juste pour dire qu'il y a toute une semaine à côté avec un travail des débats sur la migration, la multiculturalité. Et donc, dans le cadre de Ville Enseigne, il y a aussi une expo qui a été faite avec trois photographes, dont Gaëlle Turine et des élèves de Cadide Gamon. C'est un projet social. Enfin, ce qui est très beau, c'est dans tes petits box, chacun a dû raconter une partie de son exil. Ce sont des enfants nés ici de parents immigrés.
Pas toujours. Donc, ce sont des enfants qui ont dû ramener un objet du lien familial et de l'exil, en fait,
voilà, mais
qui appartenait à leurs parents.
Eux sont nés
oui,
ici oui. Et donc, ils ont ce lien par rapport à leur pays d'origine. C'est généralement des photos. Il faut savoir que dans les pays d'où ils viennent et d'où je viens aussi, la photo est très rare. Avoir son père en photo ou sa mère en photo, il y en a peut-être une. Moi, j'ai peut-être une photo d'enfance. On n'imagine pas ici avec le nombre de photos. Donc, ce sont des photos écrasées, mais elles sont tellement importantes parce que c'est la seule qu'il y a. Et il y a un texte aussi où les enfants, voilà. Il y a des Marocains qui se disent qu'au Maroc, ils ne se sentent pas du tout chez eux. Et donc voilà, c'est un beau parcours avant le spectacle et c'est un spectacle évidemment que je recommande.
www.theatrenational.be.
Ok, alors après Fabrice Murgia, le jeune qui monte, on va passer à un vieux mouvement qui ressuscite le punk au Théâtre 140.
Exactement, donc là j'ai eu l'occasion d'en apprendre davantage sur le mouvement punk. Donc le Théâtre 140 accueille jusqu'à ce vendredi, donc courez-y, ça va aller très très vite. Accueille la pièce Please Kill Me, qui est mise en scène par Mathieu Bauer, donc c'est un Français, qui en fait s'est penché sur le livre éponyme de Lex MacNeil et Gillian McCain. C'est un livre d'entretien qui a été publié en 96 seulement aux États-Unis et traduit 10 ans plus tard en français, donc c'est aux éditions Alia. Et en fait, c'est un livre qui retrace l'histoire du mouvement depuis ses débuts, qu'on connaît moins, ses débuts à New York, donc bien avant The Clash ou les Sex Pistols en Grande-Bretagne. Et tout ça s'est fait à partir des témoignages, des récits de vie de ceux qui ont vécu le mouvement, ceux qui restent, j'ai envie de dire aussi.
Et voilà, ça dépasse New York, parce que c'est fait par des Américains qui s'approprient. Hein.
Ça dépasse New York aussi, de toute façon. Mais voilà, c'est une belle découverte pour ceux qui ne connaissent pas. Ça peut être une belle façon de se replonger là-dedans pour ceux qui en sont nostalgiques. En tout cas, après ce spectacle, ça donne très envie de lire le livre et d'en apprendre davantage sur cette époque-là, pleine de contradictions.
Et que dans le public, on voit plein de gens avec des vestes cloutées et des...
Pas tant que ça. Alors, hier, c'était la première au Théâtre 140. Il y avait énormément de scolaires. Donc je vous conseille vraiment de réserver très vite parce que, en tout cas, hier, c'était complet. Donc il y a beaucoup de scolaires, mais il y a aussi des personnes qui, peut-être, avaient 20 ans à la fin des années 60.
Et comment on monte cette anthologie sur scène ?
Alors, sur scène, il y a une très belle rencontre, justement, au niveau du texte. Donc c'est une adaptation du livre. Donc ce sont les témoignages sur scène par deux comédiens. Et une rencontre avec de la musique aussi. Il y a trois musiciens sur scène, dont Mathieu Bauer, le metteur en scène, à la batterie. Et une scénographie aussi vraiment super. Donc il y a toute une ambiance. On retrouve finalement ce désordre, cette vie tourmentée. On retrouve tout ça dans la rencontre avec la musique et le texte et la scénographie. Ça donne vraiment une ambiance électrique, une ambiance parfois sale aussi, parce que bon, on évoque quand même toutes les drogues, toute la débauche que les jeunes vivaient à cette époque.
Est-ce qu'il y a une parole politique d'un nos futurs ancrée
Alors, c'est là, mais voilà, c'est là à travers les témoignages de ceux qui y étaient. Donc, je pense qu'en fait, le message qu'il y a dans ce spectacle, c'est plutôt, d'une part, expliquer un peu ce qui s'est passé, et voilà, juste rendre compte de cette époque, et puis aussi peut-être rendre justice à tous les jeunes qui ont créé ce mouvement et qu'on connaît moins, parce que là on parle beaucoup de groupes qui ont l'épingle de nourrice, la crête punk, ça c'est l'image qu'on a, mais il y a tous les jeunes qui étaient là dès les débuts et qui ont malgré eux laissé tout un héritage.
Et est-ce qu'il y a des résonances actuelles ? Est-ce qu'on peut encore se dire, tiens, finalement cette idée-là, elle n'était pas si...
Alors,
est-ce que c'était fort daté ?
Il y a une volonté, en tout cas sur la fin du spectacle, vraiment la toute fin de remise à l'actualité. C'est-à-dire qu'on va essayer de justifier ce mouvement, ou en tout cas se dire bah, finalement, est-ce qu'on avait tort ? Non, on était peut-être les seuls qui avions raison et tous les autres, c'était le troupeau qui prenait le mauvais sens. Mais ça, c'est seulement à la fin. Et je trouve que justement, c'était pas toujours très clair le message de ce spectacle. Parce que finalement, voilà, ça rend compte de tout ça, mais est-ce que ça le défend ?
C'est une traversée historique.
Oui, c'est plutôt ça. Parce que, bon, malgré tout, c'était la drogue, la débauche, la violence. Mais je tiens juste à préciser la performance de Kate Strong. C'est la comédienne britannique qui joue là, qui chante. C'est un texte en anglais, en français. C'est alterné et elle respire le
est-ce
punk.
Est-ce qu'il y a de la vidéo, des images documentaires ?
Il y a quelques vidéos en fond, oui, et surtout beaucoup de textes projetés. C'est vraiment bien, je vous le conseille. Donc jusqu'à ce vendredi au Théâtre 140.
Et on écoutait, en fond sonore, bien évidemment, un extrait du spectacle.
Voilà, on va passer à un tout autre genre, là, cette fois-ci, avec Nico, pour le Roi Lear au Théâtre du Parc, mis en scène par Laurent Manson, avec une grosse distribution, comme on n'a plus tellement l'habitude de voir sur nos scènes belges.
Mmh. Et puis, c'est la marque aussi Thierry Debroux, hein, la direction qui invite de nouveaux créateurs dans cette antique maison du Parc. Nouveaux créateurs pour la maison, hein, bien évidemment, Laurent Manson le connaît sur scène. Alors, c'est quoi le thème de la pièce ? Ben, occupez-vous des vieux, hein. On les laisse pas comme ça errer, on s'occupe de ses parents, de ses grands-parents. C'est un peu ça le point de départ, c'est l'histoire d'un roi vieillissant qui décide de diviser son royaume entre ses trois filles. L'une d'elles ne veut pas cet héritage, elle est répudiée en France, de l'autre côté de la Manche.
Surtout, elle ose être honnête avec lui et moins focus que les deux autres
sœurs. Les deux autres, puisqu'évidemment, ces deux sœurs qui se diviseront le royaume, eh bien, ne voudront pas de ce vieux père encombrant et de toute sa suite, ses 50 gens derrière lui qui veulent suivre. Alors évidemment, c'est sur la déception du parent face à ses enfants qui le rejettent. Il y a également beaucoup sur l'amour interdit également. Il y a plein de choses qui se passent à ce niveau-là. Et l'histoire de complot, évidemment, avec toute la maestria de Shakespeare pour monter tous ces éléments, les trahisons, etc. du lieutenant. On ne va pas raconter l'histoire en entier, juste dire comment ça se passe ici sur scène. Laurent Manson prend un classique, on l'a déjà dit, et il nous donne ici une optique de mise en scène tout en profondeur. Il nous offre ici une espèce de cylindre encordé qui avec des cordes qui fuient comme les lignes de fuite hein, dans l'horizon pour encadrer un petit peu ces scènes qui se déroulent devant devant nous, un plan incliné également, avec des cordes qui seront mouvantes au fur et à mesure du spectacle, comme des cordes aussi parfois d'un ring de catch qui sont utilisées comme telles et qui sont en déliquescence au fur et à mesure du spectacle, comme la mémoire de ce vieux roi Lear et aussi cet amour qu'il avait pour ses enfants et qui diminue. C'est très bien joué, c'est de manière classique avec des apports contemporains. Certains peut-être voudraient que ça aille un peu plus loin, mais en tout cas on est dans le parc, on y reste et on retrouve quand même sur scène une belle distribution avec Jean-Marie Pétignot qui incarne un roi Lear assez convaincant, Philippe Jezet également et Benoît Van Dorslar, Sylvie Landeuil, Delphine Bibé, etc., etc. Une très très belle distribution. Ça a commencé lors de la deuxième un petit peu en dessous des espérances et finalement, eh bien voilà, ils se sont laissés emporter par le texte et nous aussi finalement, on s'est laissé prendre dans ce spectacle qui dure quand même 3 heures, il faut le signaler.
Oui, mais c'est une tragédie très complexe. Mmh. Je pense que le défi principal, c'est de la rendre lisible avant tout, avant d'y ajouter sa petite note personnelle. Et là, c'est réussi. On suit l'histoire et puis ce décor aussi qui bascule en même temps que le roi Lear sombre dans la folie et ses cordes qui finissent dans un magma rouge quand Cordelia meurt.
Est-ce que ça impose aux comédiens un jeu particulièrement acrobatique s'ils sont dans ces cordes ou ils se meuvent dans ce décor comme
Je me suis dit ça au début, quand tu arrives et tu vois cette espèce de toile d'araignée gigantesque, tu dis oh là là, ils vont faire de la gym. Et puis finalement.
Ça reste assez classique, ouais. Dans des déplacements statiques quand ils parlent, et puis des rapides déplacements pour retrouver, avec quand même certaines. Ils passent entre les cordes quand ils sont dans la forêt ou des choses comme ça, surtout avec celui qui joue, Yvan Julliard, qui joue le rôle d'Edgar, des deux frères. Parce que c'est amusant, on parle de folie de la vieillesse et puis de la folie fin de la jeunesse d'un autre côté qui s'oppose. Il y a deux situations inversées qui sont assez intéressantes à voir dans cette pièce. Allez voir pour vous faire un peu cette idée.
Et la musique, est-ce que Manson utilise?
Alors ça, c'est peut-être un petit peu... Oui, il y a des chants baroques là, qui sont joués en direct et qui sont chantés par les comédiens. C'était pas essentiel, franchement, je crois pas.
Ce sont des chants d'époque joués en direct au clavecin, enfin accompagnés en direct au clavecin, mais... Moi non plus, je trouve pas que c'était
Et puis on comprend pas très bien les textes, donc
ça paraît un peu ringard. Ouais, c'est le petit bémol de la pièce. Mais en tout cas, c'est quand même une pièce à voir pour découvrir Shakespeare dans des bonnes conditions.
Et c'est à voir jusqu'au 18 février au Théâtre du Parc, www.théâtreduparc.be.
La constellation.
Oui, il reste encore Elisabeth qui va nous parler de Red au public.
Voilà, alors je vous le donne en 1000 red, c'est quoi? C'est une couleur, évidemment. Alors on arrive dans la grande salle du public et on se trouve face à une assez belle scénographie aussi, qui nous plonge tout à fait directement dans le vif du sujet, puisqu'on est dans un atelier de peintre. Alors, de quel peintre s'agit-il? Eh bien, de Marc Rothko, et je dois bien avouer que je ne le connaissais pas.
Oh!
Non, voilà.
Ces grands panneaux rouges.
Oui, ces grands panneaux rouges. Et donc, c'est en fait un peintre abstrait, et pour faire court et radiophonique, qui faisait des carrés. Et pour le situer, c'était de la même période que monochrome. Jackson Pollock, qui lui faisait des gouttes. Donc, c'était un petit peu là, mais c'était effectivement
Ils
un grand
sont à
maître.
La tête moderne.
Voilà. Et donc, c'était pas non plus n'importe qui. C'était pas quelqu'un qui se prenait pour n'importe qui non plus. Et donc c'est un personnage comme ça, un peu intello, un peu suffisant et qui a une réflexion très très profonde sur l'art et l'inspiration de l'art, etc. Et on le trouve à l'entrée de scène assis sur une chaise en train de contempler sa toile, donc ce carré rouge avec marqué de noir, puisqu'il y a toujours de couleurs. Et puis arrive son jeune assistant, un jeune apprenti peintre qui lui, il le regarde avec des yeux de Merlan Free, et puis il s'en prend quand même quelques gamelles. Et tout ce spectacle, en fait, est une vraie, véritable joute intellectuelle entre ce peintre avec une certaine autorité, une carrière derrière lui, qui a une grosse commande. Donc, il a ce petit, cette petite main qui vient l'aider à préparer ses canevas et à faire des premières couches, puisque bon, tout est une question de couches. Et donc, on a cette joute comme ça qui se poursuit, qui est quand même aussi doublée d'une couche un petit peu plus psychanalytique aussi, puisqu'on parle de... Freud, Lacan, Jung et tout ça. Et on découvre à la fin que finalement, c'est aussi une histoire de trouver son père. Ce qui est sympathique dans ce spectacle, c'est que c'est pas n'importe qui joue, évidemment, parce que c'est vrai que le texte est un peu verbeux quand même. On est vraiment...
Les débats esthétiques des années 70.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment la joute aussi. On discute et enfin, c'est bavard. Hein. Mais c'est porté par Patrick Descamps et il dit qu'elle base. Et voilà, ça fait passer la pilule et même très bien.
C'est mis en scène par qui ?
Par Michel Cassellon-Bogen. Et donc, y a les choses évoluent à petites touches comme ça. Et surtout, il y a un basculement, puisque c'est le Patrick Descamps qui est vraiment dans le verbe et qui parle. Il a en face de lui Tsikel Bass qui est dans la réception. Et là encore, il m'a étonné parce qu'il bouge la main et il se passe quelque chose. Donc, voilà. Mais enfin, c'est vraiment, il arrive avec un jeu tout à fait minimaliste à vraiment faire vivre son personnage. Et puis, ça s'inverse tout doucement. Et il y a aussi plastique assez belle, etc.
Et est-ce que ça nous interroge aussi sur l'art plastique aujourd'hui, le marché de l'art
qui... Oui, bien sûr, ça nous interroge, je dirais même plus loin que ça, sur la finalité de l'art et aussi l'intégrité. Puisque, en fait, cette grosse commande, c'est une commande de toile monumentale pour dans un restaurant très chic et un peu prout-prout. Et finalement, au début, le point de vue du peintre, c'est de se dire... Moi, je vais les faire. Ils vont se laisser absorber par mes toiles et finalement, ils vont oublier leur couvert. Et puis finalement, bien sûr, c'est le contraire qui se passe.
Donc on se trouve des excuses pour vendre son âme.
Et puis, mais voilà, je sais pas. Il y a quand même un enjeu. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout de ça? Donc, c'est vraiment l'intégrité de l'artiste, l'art. On est dans ça vole haut. Mais voilà.
Tu nous as quand même donné envie d'aller voir.
Oui, oui. De toute façon, on a un petit peu le temps. Hein, c'est jusqu'au 3 mars.
Donc, et le débat de Rothko, voilà. C'est grande salle.
Ces grandes salles, oui, tout à fait, avec des grandes toiles aussi.
www.theatrelepublic.be
Voilà, et pour la dernière création de cette semaine, on va au Théâtre du Méridien pour Gagarine Way, de Howard Burke, si je me souviens.
Grégory Burke.
Oui, ne vous fiez pas à son nom de famille, c'est assez savoureux comme pièce.
Voilà, oui.
C'est une histoire toute bête, comme on en a déjà vu ailleurs au théâtre, l'histoire d'une prise d'otage un peu foireuse. Donc c'est deux ouvriers prolétaires qui ont planifié de kidnapper l'un des big boss de leur entreprise en espérant que ce soit un japonais pour envoyer un message fort sur le monde des multinationales. Et en fait, ils se trompent de gars. Finalement, c'est un gars de leur coin, de leur Écosse profonde, et qui ne correspond pas du tout au stéréotype du businessman requin aux dents acérées, mais qui, au contraire, est presque en dépression. Et tous ces personnages, c'est ça qui est, je trouve, assez réussi dans cette pièce, ne correspondent pas aux stéréotypes qu'on attend d'eux. Donc, notamment, l'un des deux kidnappeurs, qui est joué par un Vincent Lécuyer formidable, est à la fois lourd, vulgaire et en même temps assez intelligent dans ses arguments et qui commence à discourir sur Sartre avec un autre personnage.
Et on avait une période d'ouvrier intellectuel, hein, engagé, communiste. Et...
Oui, bien sûr, mais en fait, on est en Écosse et on est dans une partie de l'Écosse que je ne connais évidemment pas, mais qui est un noyau communiste aussi. Et c'est quand même aussi une dialectique qui, mine de rien, se met en place. Et qu'est-ce que c'était l'engagement à cette époque-là ?
Le syndicalisme.
Ou la bande Abadère, hein, qui kidnappait les gens dans les coffres.
Mais la pièce est située dans le temps ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'était écrit en 2001.
Oui.
Et qu'aujourd'hui, en 2011, tu dis, mais voilà c'est notre époque, c'est, on est en plein dedans.
On va aller kidnapper un patron, on va le mettre dans un coffre.
Oui, mais je veux dire, c'est pas une des années 80, les années Thatcher.
C'est écrit en 2001 en réaction. C'était la première pièce de l'auteur. C'était vraiment sa première pièce en réaction avec la situation qui vivait.
Mais l'un des personnages est fils de mineur et donc a connu tout un mouvement.
Et c'est pour ça qu'à travers ce dialogue, quand même assez caustique aussi, parce que c'est quand même, ça pique. Hein, c'est mordant. Il y a tout ce discours aussi sur qu'est-ce que c'est la militance aujourd'hui, comment est-ce qu'on est syndicaliste, comment est-ce qu'on défend ses droits, qu'est-ce qui reste, la gauche, la droite, puisque l'autre personnage, c'est un étudiant en Sciences Po, finalement, qui essaye de dire, mais la droite, la gauche, maintenant, on peut concilier les choses. Et donc, on est un peu dans notre microcosme.
Non, on ne peut pas concilier les choses, la droite, la gauche.
C'est intéressant parce que c'est un jeune qui travaille là comme vigile parce qu'il doit bien gagner sa vie. Il a au moins 9 boulots dans sa semaine. Et ça montre aussi la précarité d'aujourd'hui. Mais il y a des petits détails comme ça, comme ce syndicaliste, donc un des preneurs de tâches, qui arrive avec un flingue caché dans un sac McDonald's. Et rien n'est dit, mais toute la contradiction est là. Et ça dit beaucoup de choses, c'est très bien joué. Le décor est un peu moche, mais on oublie vite. Et c'est mis en scène par Georges Ligny, on ne l'a pas dit.
Est-ce que ça donne des envies?
D'encoffrer
nos patrons.
Mais ça fait réfléchir, en tout cas, et d'une manière quand même fort sympathique aussi, parce que c'est vrai qu'à la fois, on s'amuse. Il y a vraiment presque tout est au deuxième degré. C'est comme si les personnages se regardaient un petit peu.
Et, comique et, du plan foireux.
Il y a un de ces personnages qui va trop loin et qui sombre dans la barbarie. Alors là, tu peux plus être de son côté. Donc, c'est pas du tout manichéen. Hein. Mais donc on va finir avec une petite annonce aussi pour Les Barbares de Hammadi, qui se joue cette semaine, peu de temps. Alors,
très peu de temps, bon, c'est la création, hein. On sait que les spectacles de La Charge du Rhinocéros, ça va venir un peu plus tard, ça va en tournée bien évidemment. Hammadi qui nous revient avec une formule qu'il connaît bien, c'est-à-dire le seul en scène, proche du conte également, en tout cas on est dans le récit face au public, le récit ici aussi de l'exil, on y revient évidemment. Les Barbares, qui sont-ils? Sont ceux qui viennent, ceux qui accueillent, voilà, on ne sait pas un peu ce qui se passe. Et Hammadi a décidé de retracer tout le trajet. Alors, pourquoi ils quittent, comment ils quittent et comment ils arrivent à la fin. C'est un peu tout ce trajet à travers la voix de son fils, Sofiane El-Boubsi, qui est là également, à qui il a confié ce texte qu'il met en scène. Alors, des deux courts extraits qu'on en a pu voir en présentation, c'est une scène circulaire. Donc, on a un cercle tracé au sol, un cercle de poussière, où le personnage interprété par Sofiane El-Boubsi est entourée de charbon ardent. Ce cercle est délimité ainsi, avec un fond où est projeté des photos. Il se trimballe une malle qui lui sert de bagage, de barque également. Hein. On sait les coquinois qu'ils empruntent parfois à contre-cœur, souvent même à la frontière du Maroc et ses enclaves espagnoles, évidemment, qui sont fort prégnantes, avant de traverser ce fameux détroit de Gibraltar. C'est du Hammadi pur jus. Alors, si on aime, il y a beaucoup d'émotions, évidemment. C'est faire transparaître le message par l'émotion. C'est ce qu'il cherche à faire. Voilà, on n'en a vu que deux courts extraits. Ça dure 1h15 et c'est à voir au Volubilis du 26 au 30 janvier.
Ben voilà, ben finalement, on n'a que du bon dans cette émission. Hein. On a envie de tout voir avec Exil au Théâtre National, l'histoire du punk au 140, l'euro à lire au Théâtre du Parc, Gagarine Way au Théâtre du Méridien et puis Red au Théâtre du Public et aussi à Madi, évidemment, à Volubilis. Voilà, bah passez une bonne semaine.
Bonne semaine.
Pleine de théâtre.
Et allez voir de belles planches. N'oubliez pas cette émission en podcast sur demandezleprogramme.be et dans le centre de ressources de la Bellone. Très belle semaine à vous. À très bientôt.